Chapitre 1, Brouage, 1570. Dans un village de France en 1570, comment un petit garçon envisage-t-il sa vie future? Tout dépend de sa famille. S'il est noble, il fera carrière dans l'armée ou à la cour du roi. S'il vient d'une famille de la bourgeoisie, il suivra les traces de son père et tentera peut-être une carrière dans la marine ou la prêtrise s'il a des appuis. S'il vient d'une famille de marchands, il fera de même. S'il est un simple roturier, c'est-à-dire un homme sans titre de noblesse, il ne jouit d'aucun privilège. Il forgera sa vie seul, sans aide. À Brouage, petite bourgade au bord de l'Atlantique, le jeune Samuel fait partie de quel groupe? On n'en sait pas grand-chose. Les documents officiels de sa ville natale ont tous disparu. On ne connaît même pas exactement qui sont ses parents ni sa date de naissance. Est-il de religion protestante ou catholique? Mystère. Un incendie a détruit tous les actes de baptême antérieurs à 1590. On sait par contre que Brouage, situé au sud de la Bretagne dans le golfe de Gascogne, était à l'époque où vécut Samuel de Champlain, un port important pour la pêche et le commerce du sel. Lui-même a certainement rastelé au palu, c'est-à-dire ratissé le sel dans les marais salants à proximité de la ville. Qui dit port, dit navire, marin, activité continuelle, pêcheur et marchand. Le jeune Samuel a sans doute profité de cette agitation pour observer et entendre les diverses langues parlées par les membres de cette société cosmopolite venue s'approvisionner en sel pour la salaison des poissons. Charles Lebert, un ingénieur et cartographe au service du roi Henri IV, est en poste à Brouage. C'est lui qui lui enseigne à lire, à dessiner et à manier un curieux instrument, l'astrolabe. Tout ce qui a trait à la navigation intéresse le jeune garçon. Et le maître, M. Lebert, est très satisfait des progrès de son élève. Il en parle autour de lui avec les navigateurs. Ses propos viennent à l'oreille d'un parent de Samuel, son oncle Guillaume Allen. Celui-ci est capitaine de navire au service du roi d'Espagne et se prépare pour un prochain voyage. Samuel rêve depuis longtemps de se joindre à un équipage et de partir en mer, mais il est jeune et il n'a pas d'expérience. Il nourrit des projets imaginaires tout en développant ses dons de dessinateur. Or, un jour, voici que le vaillant capitaine Allen l'approche et lui fait une proposition. Samuel, si tu le veux, je t'emmène avec moi vers le sud pour rejoindre les Antilles et le Mexique. Pendant ce voyage, tu mettras tes connaissances à l'épreuve. Le jeune homme est agréablement surpris en entendant ces mots. Entrevoyant la réalisation de ses rêves, il n'hésite pas un seul instant. « Oh mon oncle, quelle nouvelle fantastique! J'accepte avec joie !»« Va vite chercher tes plumes et tes pinceaux. Nous partons demain au petit jour !» annonce le capitaine. Samuel ne se fait pas prier. Il court chez lui pour rassembler ses affaires. Son attente est si exaltante qu'il a du mal à trouver le sommeil. Il se précipite au port dès les premières lueurs de l'aube. Ce premier voyage à bord du Saint-Julien que commande Francisco Coloma sera pour le jeune homme une découverte inespérée. En tant que simple observateur, Samuel exerce avec ardeur son talent de dessinateur, réalisant les cartes des côtes et des territoires abordés. Curieux de nature, il ne peut s'empêcher de croquer dans ses carnets de nombreux dessins des plantes et des animaux qu'il rencontre. Il note tout, les couleurs, les odeurs et même le nom des fleurs. Il revient aussi de cette expédition profondément marquée pour le reste de sa vie par les terribles conditions dans lesquelles sont tenues les populations locales qui travaillent dans les mines d'argent. Il l'écrit dans ses notes. De retour de ce voyage, ses talents d'observateur reçoivent en France une certaine reconnaissance. Le roi Henri IV lit le rapport rédigé par Champlain avec le même intérêt qu'il prendrait au précieux témoignage d'un espion dévoilant les méfaits des Espagnols avec lesquels la France était en guerre 2 ans auparavant. Ce texte, intitulé « Le bref discours des choses plus remarquables que Samuel Champlain de Brouage a reconnu aux Indes occidentales », lui vaut une invitation. Celle d'accompagner François Gravé Dupont, que le roi envoie en expédition pour trouver une route vers la Chine. Tel est en effet l'objectif de diverses missions qui traversent l'Atlantique. Le Livre des Merveilles de Marco Polo a durablement marqué les esprits. Encore une fois, la chance lui sourit. Le jeune homme ne va pas refuser ce bonheur de partir vers des contrées lointaines. Pour lui, c'est une véritable mission. Débordant d'enthousiasme, en 1603, Samuel s'embarque donc sur la bonne renommée au port de Honfleur. Après une longue traversée, le navire aborde à Tadoussac, où les voyageurs sont accueillis par les Indiens montagnais avec des chants et des danses. Leur sagamo, Anna d'Abijou, invite les arrivants à une tabagie, c'est-à-dire un grand festin où les chants et la danse sont à l'honneur. On fume le tabac dans une pipe à long tuyau appelée calumet, qu'on fait circuler d'un convive à l'autre. Laissant la bonne renommée ancrée à Tadoussac, ils remontent le Saguenay à bord de chaloupes. Ils rejoignent enfin la rivière Canada, ainsi nommée par Jacques Cartier, le Saint-Laurent d'aujourd'hui, naviguent sans entrave, passent le lac Saint-Pierre, poursuivent jusqu'à Hochelaga et atteignent enfin les trois sauts ou courants d'eau qui forment des rapides infranchissables, les actuels rapides de la Chine. Les embarcations sont contraintes de s'arrêter. Déjà, lors de son troisième voyage en 1541, Jacques Cartier n'avait pas réussi à les franchir lui non plus. Samuel n'a pas encore de titre officiel, mais il fait fonction de cartographe et de géographe du roi, comme le démontrera plus tard le rapport qu'il fera au sujet de son voyage. À cette époque, sans doute, pouvait-on se donner des titres correspondant aux fonctions occupées sans trop de contestation, car ils étaient rares les cartographes et dessinateurs, surtout ceux que le roi favorisait. Les voyageurs séjournent ensuite à Gaspé, dans le golfe du Saint-Laurent. Champlain consulte les indigènes qui viennent accueillir le navire de l'expédition. Il prend des notes. Les sauvages lui parlent du pays de l'Acadie, riche d'avantages de toutes sortes. Ces autochtones sont surtout des Micmacs qui voyagent dans les environs, venant chasser et pêcher sans s'installer durablement. Ils sont nomades. Selon eux, la région voisine de l'Acadie regorge de mines de cuivre et d'argent. Samuel de Champlain est très intéressé par les descriptions que font les autochtones des lieux qu'il semble bien connaître. Et la route tant recherchée vers l'Asie s'y trouve peut-être. Il est entièrement conquis par leurs discours et il échafaude déjà de grands projets. « Voilà ce que nous cherchons, » dit-il à Gravé Dupont. « Des richesses et une route menant à d'autres découvertes encore plus alléchantes. Ne croyez-vous pas que nous devrions nous y rendre ?»«
Ce sera pour notre prochain voyage, » répond le commandant. « Pour le moment, nous devons rentrer et faire un rapport au roi au sujet de notre expédition. »